Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Et oui, vous le savez, désormais, Good Luxe Paris, c'est tous les jours de la semaine, en direct, entre 13h et 15h. Je vous retrouve en solo. Et quand le week-end arrive, enfin, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, Emmanuel, attention, accrochez-vous, une émission runk, punk, que dis-je, non, gothique. C'est le credo des toutes nouvelles marques de parfums de niche qui viennent de se lancer. Leur titre phare, écoutez bien, Rosa Nigra, Electric Woods ou encore Éther Oxyde, leur nom de scène Nicolas Chabot pour Heather Parfum, Michael Partouche alias Dr Mike pour Room 1015 ou encore Unum et Nicolas Cloutier de la boutique Nos pour les représenter. Et en guest star, nous aurons notre diffuseur de bien-être Lionel Paillès. Mais tout de suite, les nouveautés de la semaine.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et les nouveautés de la semaine, Emmanuel Rubin, ça commence avec, bien sûr, la table de la semaine. Et quelle table assez étonnante dans Paris?
Oui, ça s'appelle Manco, c'est 15 avenue Montaigne. On en a beaucoup parlé dès le mois de septembre parce que à la tête de cette table, il y a un grand chef péruvien qui est une des stars de la cuisine internationale au même titre que Nobu ou Alain Ducasse. Et il est installé dans toutes les villes mondes. Il manquait plus de Paris. Le voilà donc à Paris, 15 avenue Montaigne. On est du côté des tables de Champs-Élysées. Il faut descendre. Et là, dans un sous-sol, vous allez avoir tout à fait un ensemble de restaurants, de tables, de lieux global, puisqu'il y a un cabaret, donc une boîte de nuit, un bar
orchestré. C'est l'ancien Drouot Montaigne.
C'est l'ancien Drouot Montaigne.
C'est Benjamin Patou aux
commandes. Benjamin Patou, voilà, qui orchestre l'affaire avec Garou.
Mais oui, on les a reçus dans Good Luxe Paris, nous ont raconté un petit peu tout ça, mais effectivement pas toute
pas
la finesse
de la
cuisine. Parce que c'est vrai que la cuisine péruvienne, quand vous nous vendez ça, justement, on appréhende un peu.
On appréhende un peu parce que en France, ça n'a pas encore pris. Ça commence. On voit notamment à Paris beaucoup de cevicheria s'installer. C'est un petit peu le gimmick, le plat fétiche de, j'allais dire, de la gastronomie en marche. Dans le reste des villes, à New York, à Londres, c'est vraiment une cuisine qui marque des points. Pourquoi? Parce qu'elle parle à l'époque, elle parle au corps, elle est très digeste, elle ouvre des nouveaux champs de saveurs. C'est une cuisine qui va jouer beaucoup sur l'astringent, sur le piquant, sur le fruité, des nouveaux épices, des nouvelles manières de marinade, très neuves. Alors, je ne peux pas vous décrire tous les plats parce qu'on est un petit peu dans la cuisine, non pas de tapas, mais de partage. Et là, pour une fois, vraiment, lorsque vous allez vous installer au Manco, surtout, partagez les plats. Autrement, vous allez passer à côté. Tout le service vous incite à cela. Prenez plusieurs plats. Et c'est vrai que c'est très bien fait. On a, pour une fois, pas la petite gêne qui allait piquer dans l'assiette du voisin. Ça fonctionne très bien. C'est vraiment les codes de la cuisine péruvienne. Alors attention, c'est une cuisine péruvienne un peu jet set, très montée en puissance, qui parle un petit peu à tous les palais mondains. Faut aller voir l'adresse. Moi, je pense d'abord et surtout pour cette cuisine et pour le restaurant, parce qu'après tout ce que se passe du côté du bar, de la boîte, de Garou et de Monsieur Patou, ça vous concerne. Moi, je ne les ai pas reçus. Je ne fréquente pas la nuit. Mais non, ça vaut le coup.
Surtout que
l'adresse annoncée en septembre, qui devait ouvrir en novembre, qui vient d'ouvrir en toute discrétion. Il n'y a plus vraiment de ramdam, donc allez-y, parce que là, après, galoper.
Allez, de nouvelles boutiques, notamment du côté de la place Vendôme, Van Cleef & Arpels, juste à coller à la boutique ancestrale du 22 place Vendôme qui avait été ouverte en 1906. Ils viennent d'ouvrir sur deux niveaux, 280 mètres carrés, signés du duo d'architectes Patrick Join et Sanjik Mankou, qui ont déjà travaillé sur d'autres flagships de Van Cleef & Arpels à travers le monde. Et donc là, on retrouve toutes les collections joaillières, horlogères de la maison Van Cleef & Arpels, plus quelques pièces historiques. On retrouve toutes les collections en vitrine. C'est vraiment un très beau lieu. Et surtout, Patrick Join et Sanjik Mankou ont mis en valeur aussi les savoir-faire français en matière de décoration. Il y a des plafonds en staff sculptés de motifs végétaux, des globes de verre, enfin des choses vraiment très belles. Un nouvel écrin, quoi, pour Van Cleef & Arpels. Et puis un autre lieu, parce que c'est un petit peu lié, les montres. Les montres, vous connaissez, il y en a plusieurs dans la capitale. Il sait y faire. Ça fait 25 ans que Jean Lassossois vous propose comme ça différentes boutiques au travers des montres. Et là, c'est les montres collector. Donc tout ce qu'il y a autour du vintage, 34 rue du Four, dans le 6e arrondissement de Paris. Donc montres vintage, garde-temps d'occasion, modèle horloger neuf, mais fin de collection, c'est ces petites ventes privées. Bien sûr, tout ça est garanti. D'ailleurs, toutes les pièces sont garanties un an, c'est très bien fait. Et vous retrouvez toute l'offre sur lesmontrescollector.fr, ce qui nous amène au web. Web de luxe.
Good de luxe Paris, l'édition du week-end. Web de luxe.
Sandy Prenoir,
bonjour.
Bonjour. Alors sur le web, il n'y a pas que les montres, bien sûr. Il y a aussi, tiens, des baskets.
Adidas. Adidas qui vient de lancer sa nouvelle série de 13 films. Les 5 premiers sont en ligne, alors sur youtube.com/Adidas ou sur le site de la marque. L'idée, c'est de mettre en avant la femme et à travers la femme, des femmes connues comme Carly Close, qui est une mannequin aussi chef d'entreprise, entre autres égérie de cette marque, parce qu'il y en a aussi beaucoup d'autres, des tennis women, voilà, beaucoup de personnages comme ça. Mise en avant aussi de la marque de nouveau, en la réancrant profondément dans le sport. On met aussi à travers toute cette campagne publicitaire la chaussure, évidemment, je sais plus comment elle s'appelle, la Pure Boost X, qui est uniquement dédiée aux femmes. Bon, tout ça, c'est de la communication, on est d'accord, mais ça marche plutôt pas mal. Et quelques films rigolos à voir, un peu de sport, un peu de jolies filles.
Voilà. À découvrir, quand même, il y en a 13 films sur Adidas.
Pour le moment, il y en a 5. Et les autres à venir.
Et puis un anniversaire chez Nina.
NinaRicci.com, quand on entre, on est invité par la marque à fêter ce nouveau flacon de parfum, donc le célèbre Nina. C'est les 10 ans de la marque, donc ils ont redécoré le flacon avec plein de petits confettis. L'internaute, lui aussi, va pouvoir s'amuser un peu en postant sa photo de profil, en la décorant de confettis là encore, et en la postant sur ses réseaux sociaux, ils vont pouvoir gagner plein de jolis cadeaux. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Le flacon reste le même, hein, même s'il a changé les odeurs, la fragrance, tout ça, c'est la même chose. Et puis, il y a une vidéo aussi publicitaire qui a été mise aussi en avant. Voilà.
Eh ouais, mais c'est là que se joue la création aussi. Aujourd'hui, vous nous dites pas un sujet très fifi, Emmanuel. Alors, on continue.
Une nouvelle expérience. Mais là, ça va vous plaire.
Une nouvelle expérience du luxe, Sandy.
Oui, alors, l'expérience de ne plus jamais avoir à faire à manger, c'est possible. Si, en tout cas, si on n'aime pas faire à manger.
Si vous êtes comme Emmanuel Rubin, chroniqueur gastronomique, vous mangez tout le temps en restaurant.
Pas à manger.
Grâce à l'application et le site Menu Nextdoor, on va pouvoir commander des plats testés, savoureux, à emporter, préparé par nos voisins. En fait, c'est une application qui va vous permettre de géolocaliser les gens qui sont autour de vous, qui se sont auto-décrétés chefs.
Oula. Donc,
oui, alors justement, je savais, alors là, évidemment, je savais que je rentrais sur un terrain glissant. En fait, l'équipe de Menu Nextdoor va aller chez la personne qui se propose de cuisiner pour ses voisins, les gens qui sont dans son quartier. Ils vont tester le plat, le prendre en photo, si c'est bon, évidemment, le mettre en ligne. Et ensuite, vous allez pouvoir régaler les gens qui sont autour de vous et qui ont envie de profiter de ce plat. Donc, si ce soir, je décide de faire, j'en sais rien moi, un risotto, je mets sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur le site ou sur l'application risotto ce soir pour 7€ pour tant de personnes. Les gens viennent me voir, je donne le plat et le tour est joué. Et ça permet de bénéficier d'une cuisine faite maison, traditionnelle, de ne pas aller au resto à emporter et de connaître un petit peu son entourage.
Maison, certes, mais est-ce qu'elle est bien faite maison? C'est tout le problème de cette maison, parce que si vous avez des mauvais produits, un mauvais tour de main, c'est du mauvais fait maison.
Je l'ai testé. Franchement, il y a des plats qui sont un petit peu originaux, c'est vrai, on peut se laisser
on se lâche un peu,
mais pas que. Et justement, et c'est là tout l'intérêt du Facebook ou du compte de
moi,
l'application.
Moi, je veux le CV
des
cuisiniers.
Ouais, alors c'est pas vraiment un CV, mais il y a une présentation, il y a le plat. Je vais pas réussir à remplacer, mais c'était pas le bon sujet, ça, avec Emmanuel à côté.
Moi, Sandy.
Donc voilà, enfin, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et véritablement, on choisit son plat, et vraiment, c'est traditionnel. C'est un peu comme si on allait chez grand-mère chercher à manger. Je sais pas, il y a un côté sympa. Mais non, mais au moins, c'est pas un restaurant à emporter.
Voilà, ça change à tester.
Ça change.
Et c'est moins cher.
C'est ça.
Merci beaucoup, Sandy Prenois. À la semaine prochaine. Allez, Emmanuel, vous avez testé une nouvelle boutique.
Alors, une nouvelle boutique, une nouvelle boucherie. Où l'on retrouve un certain Cédric Nodon. Vous vous souvenez, Cédric Nodon? Il y a deux ans, le Deus ex machina de ce projet de la jeune rue qui devait voir la rue du Verroy à Paris dans le Marais.
Il est encore là, donc.
Ça a complètement capoté. Je pense que c'était trop ambitieux et trop vite. Cédric Nodon, j'allais dire, a fait un petit peu amende honorable. Il repart tout à zéro, il reprend tout. Il va se donner le temps au temps. Il commence donc à l'angle de la rue de Nazareth et la rue de Verroy par une boucherie, une vraie boucherie de proximité, petite boucherie avec un vrai travail de sourcing autour des viandes. Il travaille avec beaucoup d'éleveurs, un éleveur charolais, donc toute la carcasse qui permet d'avoir véritablement un juste prix pour des viandes très très bien travaillées. Et puis au-delà de cette boucherie, car c'est d'abord une boucherie, vous savez, on parle beaucoup des caves à manger, ces bistrots cavistes où on vient chercher son vin, mais on peut aller grignoter aussi. Là, j'allais dire que c'est un bio à manger parce qu'il y a 10 petites tables, un grill, une jeune femme épatante qui est à la fois bouchère, cuisinière, serveuse, qui a un vrai bagou et un vrai talent. Et là, vous allez d'abord croquer quelques petites tapas, plutôt bien faites, notamment un velouté d'endives, chose assez rare. Et puis après, vous choisissez à même l'étal votre viande, son grammage, alors que ce soit un contre-filet, une entrecôte, de la cuisson. Elle prépare ça dans un coin de la traque.
Mais vous nous racontez ça sans Cédric Nodon. On y court, l'écorcheur rue Notre-Dame de Nazareth, dans le 3e arrondissement.
C'est un juste prix, vraiment.
Bon, allez, et moi je vous emmène pour terminer, suer un petit peu, dans la série Que faire dans la salle de fitness, il y a un nouveau truc que je vais vous proposer, vous faites du vélo, vous
voyez, jusque-là tout va bien.
Jusque-là tout va bien, sauf que là c'est tamisé, il fait noir, on met une musique différente et chacun entre dans son trip. On est un petit peu comme en boîte de nuit, mais sauf qu'on fait du vélo tous ensemble, ça dure 45
minutes. Vélo dans le noir.
Ouais, c'est un peu plus que ça, ça vient tout droit des États-Unis, bien sûr, c'est un éclairage sophistiqué, et voilà, les riders s'évadent. Enfin,
parce qu'on comme parle ça, on peut se concentrer sur sa performance.
Ouais, et puis, à chaque effort, son tempo. Enfin, vous voyez, c'est un truc, on retourne sur soi. C'est quand même des cours collectifs.
C'est l'électro-bike.
Et ces deux anciens...
C'est un rêve bike.
Ces deux anciens de la finance, comme souvent, d'ailleurs, en France, qui ont apporté le truc des États-Unis. Ça s'appelle Let's Ride, concept d'indoor cycling.
C'est où, ça?
Et le premier, la première adresse, il y en aura d'autres, hein, je pense. C'est dans le 11e, 21 rue des Trois Bornes. C'est dans une ancienne imprimerie. C'est souvent dans des très beaux lieux, quand même. Donc, voilà.
C'est esprit rêve.
Pour éliminer la viande, vous allez l'objet de la semaine. Pour terminer, un très bel objet, si je vous dis Leica et Hermès.
Appareil photo, pose, de voilà. Belles maisons.
Eh ben non.
Pas d'appareil photo avec Leica.
Des jumelles.
Des jumelles. Ah ben oui, c'est quand même une affaire d'optique.
Bien sûr. Et Leica, figurez-vous, les premières jumelles datent de 111 ans. Donc là, ils font une série limitée de magnifiques jumelles ultra vides, ultra wide, je ne sais pas comment on dit. Donc en 111 exemplaires. Avec le petit sac, la petite sacoche réalisée par Hermès, rien que ça, c'est l'une des premières fois. Et bien sûr. Donc l'étui à jumelles, c'est le premier fabriqué par la maison Hermès spécifiquement. Tout ça est numéroté, signé, etc. Je ne vous raconte pas la spécificité technique des jumelles parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais voilà, c'est juste un super bel objet. Je vous donne pas de prix non plus.
Non plus.
L'alliance de Leica et d'Hermès, ça fonctionne toujours.
Ça
s'appelle les jumelles Leica Ultravide Hermès et ça vient de sortir. Allez, on va se mettre au parfum et vous allez voir, ça déménage.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Vergnol et Emmanuel Rubin.
Good Luxe a du Nil, nous avons flairé la nouvelle tendance, les rockers du parfum. Écoutez plutôt, sont avec nous en plateau Nicolas Cloutier. Bonjour. Vous êtes dirigeant de la boutique Nose, spécialisée dans les parfums de niche, et vous allez nous parler notamment aujourd'hui de Unum. Attention, ça vient d'arriver. Michael Partouche, bonjour.
Bonjour.
Vous avez fondé Room 1015, c'est une nouvelle marque également de parfums. Nicolas Chabot, bonjour.
Bonjour Karine.
Directeur général d'Ether Parfum ou Ether Perfume en bon français. Et celui qui a déniché et flairé cette nouvelle tendance est notre diffuseur de bien-être, Lionel Paillès. Bonjour Lionel.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe alors?
Je suis l'antiquité, moi, dans le groupe.
C'est ça, ils se mettent à la guitare électrique, les parfumeurs, c'est ça?
Oui, c'est en fait, le constat que j'avais fait, c'est que, vous savez, il y a beaucoup d'événements maintenant. Donc récemment, le Tranoï, qui était un salon parisien.
Mais c'est de la mode, ça, plutôt, le Tranoï?
Alors, depuis cette année, ils proposaient aussi du parfum.
D'accord.
Il y a un salon très célèbre qui s'appelle Essence à Milan, qui propose chaque année des nouveautés. Et il se trouve que la niche, elle se répète un petit peu, les marques se bégayent un peu leur discours, leurs histoires, etc. Et il y a quelques marques qui sont assez anticonformistes et qui reviennent un peu aux racines de la niche. C'est-à-dire des accords audacieux, des histoires vraiment originales. Et les trois marques qu'on va vous présenter aujourd'hui sont des marques originales.
Ouais, c'est ça.
Et audacieuses. C'est
Paris,
et audacieuses,
hein. Oui. Se souviendra, faut pas vous planter.
parce que on se reverra dans un an.
Mais c'est ça. Alors on va parler des jumelles. Mais qu'est-ce qu'elles ont peut-être, juste avant de les présenter, qu'est-ce qu'elles ont de plus rock and roll que les autres? Parce que à regarder ces messieurs, pour l'instant, bon, on est dans une certaine sobriété.
Quoique,
il y a des petits détails qui vont faire la différence, mais.
Alors quand on va rentrer dans les histoires, vous allez voir que c'est vraiment extrêmement original. Mais globalement, c'est des histoires très fortes. En fait, je pense que le pari sur l'avenir, c'est ça. C'est quand on a des marques qui ont des histoires aussi bien ficelées, dans lesquelles on a envie de rentrer. Ensuite, avant même de sentir le parfum, parce que finalement, la parfumerie de niche, c'est ça. C'est d'abord des histoires, des voyages, des atmosphères, avant même de sentir les parfums. Et là, à chaque fois, on a vraiment des territoires extrêmement forts, bien définis. Vous verrez, à aucun moment, vous direz, ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Jamais. C'est vraiment trois expériences
rien
nouvelles.
Rien que dans les noms, je trouve que déjà, on a l'impression de monter sur une scène. Ou en tout cas, allez, en avant la guitare, en avant les basses. Unum, Nicolas Cloutier, vous êtes là en digne représentant de cette marque que vous distribuez chez Nose. Racontez-nous Unum.
En fait, Unum, c'est Filippo Sorcinelli qui a créé son atelier pour des vêtements liturgiques en Italie, et notamment qui est le tailleur du pape François, et qui a été tailleur également pour d'autres papes. Et c'est assez spécial parce que ça représente le gothique, mais pas le gothique Matrix qu'on a vu dans les années 70, 80, ou après avec un côté plus vestimentaire, mais plus le gothique avec l'architecture, avec le côté retour avec la religion. Donc, ça a été inspiré de tout ce qui est architecture gothique et romane.
Donc, l'essence même, c'est le cas de dire, l'essence même du gothique.
Exactement.
Et donc, on n'est pas sur du gothique flamboyant, là?
Non, on est en fait, Filippo Sorcinelli, c'est assez drôle, quand il est arrivé pour la première fois dans la boutique, c'est un personnage qui est vraiment presque... il pourrait mimer et sans s'exprimer, juste avec sa façon d'être, il parle beaucoup. Et il est tatoué de la tête aux pieds. Et c'est drôle qu'en même temps, c'est le tailleur du pape François. Donc on joue sur les extrêmes.
Et c'est ça, en fait. On sent déjà que lui-même est un personnage.
Tout à fait.
Comment on retrouve ça dans le parfum? Déjà, quand on regarde le flacon, finalement, c'est vrai, il est assez sobre.
Ouais.
Gris, blanc, noir, le petit liseré doré.
En fait, c'est comme disait Lionel, ça se retrouve maintenant beaucoup dans les fragrances, en fait, avec des vrais partis pris. Ici, on est sur un encens assez puissant, aldéhydé, avec une touche de cuir, très, très puissant. C'est trois extraits, donc les niveaux de concentré assez puissants au-dessus d'une autre parfum, par exemple. Si on est plus sur une rose pêche, la pêche va donner un côté lacté, et elle va être portée autant par les hommes que par les femmes. Et la florale fruitée, c'était surtout réservé pour les femmes, mais c'est inspiré de tout ce qui est la rose qu'on va retrouver sur les pierres dans les églises au Vatican. Et donc, c'est une rose minérale. Et pour finir ici, Opus 1144, c'est l'année du gothique, où ce que justement la première cathédrale Saint-Denis, qui a été, si on veut, retravaillée avec l'art gothique. Et on essaie de, ça a été le fondement de ce parfum, l'inspiration. Et c'est un oriental gourmand boisé, assez puissant encore une fois.
On a presque envie de dire amen à la fin de ce que vous venez de nous raconter. Faites-nous sentir quand même pendant ce temps-là, si c'est possible, un petit peu, Nicolas Cloutier, pendant que vous continuez de parler.
Juste le personnage là dont vous parlez, qui a l'air assez singulier, il était tailleur, vous l'avez dit, il dessinait les vêtements, notamment liturgiques. Comment il a pu arriver comme ça, basculer dans un univers qui est celui du parfum, dont les codes de construction ne sont pas forcément les mêmes?
Bonne question. En fait, quand il a commencé l'AVS, son atelier création en 2001, il a commencé par parfumer l'ensemble des colis qu'il envoyait. C'est de la haute couture au niveau vêtements liturgiques. Et il parfumait chacune de ses boîtes avec un encens qui était
ce premier parfum.
Et donc, c'est ce qui l'a amené. Et le côté encens assez puissant qu'on va retrouver, quand on va à l'église, c'est certain que ça nous interpelle. Là, ici, on va être sur un boisé encens assez puissant avec une touche de cuir. Et ça, ici, c'est pour l'AVS.
Ah oui, c'est encens. Hein.
Quand vous dites l'AVS?
Oh là là.
Ouais, ça dépend avec l'accent québécois.
On a baissé d'un ton. Soudain, comme à l'église, j'étais à deux doigts de choquer.
Mais oui.
Et donc,
c'est frais quand même.
Lionel, deux avis, trois patères.
Donc, le deuxième, c'est une rose, comme je vous disais, une rose qui est plutôt... avec un effet pêche qui va donner un côté lacté assez minéral, qui est assez original et qui est assez étrange, comme je disais, qui est vraiment unisexe. Et le troisième, Opus 1144, c'est un oriental boisé gourmand. Donc, il va avoir beaucoup de santal et de vanille, mais à la fois, il va avoir le côté donc chaud et le côté froid avec la bergamote et la mandarine.
Alors, Lionel, Nicolas vient de nous décrire un petit peu la composition des matières qui construisent chacun de ces trois parfums. On voit aussi qu'il y a beaucoup de tendances dans le monde de la parfumerie, des tendances lourdes. Une année, c'est le jasmin, je ne sais quoi, la rose. Là, justement, est-ce qu'eux, ils sont libres? Ils choisissent les matières? Parce que l'encens, on entend rarement parler tout de même de cette matière.
C'est la particularité. Alors, l'encens, c'est une famille de parfums qu'on pourrait raccrocher à une marque qu'on connaît bien, qui s'appelle la marque de Serge Lutens. Voilà, c'est un peu cet univers-là, assez sombre, avec des ciels un peu bas, très minéral, très. On est vraiment dans. Je trouve que quand on sent les parfums, en fait, on est tout de suite. Dans une atmosphère.
C'est vrai.
Alors, parfois,
c'est parfois
qu'on
enrobe tout de suite.
Parfois on pense à l'église, parfois pas du tout, mais en tout cas je trouve que c'est une... l'atmosphère est vraiment
c'est ça,
très forte.
C'est vraiment voilà, des parfums comment on dit, atmosphériques, comment on dit. Il y a un terme pour ça
des parfums d'atmosphère.
Est-ce qu'on manque pas un petit peu justement de vocabulaire dans le vin? On a tellement de vocabulaire sur, je vous vois hocher la tête Nicolas Chabot, est-ce que parfois on manque pas un petit peu de mots justement pour décrire tout ceci?
On est souvent sur des accords, effectivement, on reste sur des accords un peu construits au niveau de la parfumerie, et il est difficile d'arriver vers un nouveau vocabulaire. Construire un nouveau vocabulaire, c'est emmener les gens vers un nouvel espace, un nouveau voyage, et c'est l'idée, mais c'est souvent assez compliqué à les faire.
Au niveau sémantique, il faut prendre des risques. Hein.
Alors, justement, puisque vous avez la parole, Nicolas Chabot, Ether Parfum, Ether Perfume, A-E-T-H-E-R, oui, voilà, pour se repérer. Alors là, on est dans une sobriété absolue dans le flacon. Alors, racontez-nous, c'est
pour
quoi
pour qu'il reste au moins une certaine sobriété. effectivement, Ether, c'est une nouvelle pharmacopée, c'est une nouvelle chimie. Et toute l'idée du projet, ça a été d'inverser le discours, justement, d'inverser le vocabulaire autour des molécules de synthèse et rendre hommage aux molécules de synthèse qui ont permis l'essor de la parfumerie moderne depuis la fin du 19e. Et qui aujourd'hui, si elles sont utilisées dans la plupart de toutes les compositions parfumées, 95% des parfums utilisent des molécules de synthèse, elles ne servent que de faire valoir la plupart du temps à une rose, un jasmin, un iris que le parfumeur va mettre en avant. Là, c'est l'inverse. L'idée est vraiment de propulser en pleine lumière les plus belles matières premières, les plus belles matières de synthèse, les plus belles molécules, et de travailler justement avec une certaine entre chimie et poésie, d'où ces noms un petit peu
citons-les, parce que rien que ça, c'est une certaine poésie. Et en même temps, vous dites, quand on disait des parfums un peu rock, c'est...
Oui, il y a ce côté...
Étonnant pour les parfums.
Voilà, j'ai voulu vraiment travailler sur quelque chose dont on n'entendait pas. Et tous ces noms, on pourrait croire que c'est des noms de molécules. Mais non, c'est que des noms qui ont été inventés, qui n'existent absolument pas.
Citrus ester,
c'est la colonne moléculaire. Donc on arrive et on a travaillé sur les dimensions de l'éther, par exemple. Donc l'éther, une première dimension, c'est la dimension de la physique quantique. Et on a voulu travailler sur un parfum où on a les molécules qui vont s'entrechoquer, qui vont s'attirer, s'assembler, se désassembler.
Bah vous voyez que vous réinventez un peu vous faites entrer le vocabulaire éminemment technique là, comme un discours. Généralement, on le planque un peu, ces mots techniques là, ils arrivent vraiment comme un faire-valoir.
Mais déjà, les mots techniques, et déjà, si on arrive à faire par ce biais et par arriver désacraliser les matières premières naturelles, mais donner le libre champ aux molécules de synthèse, on va faire un pas justement dans cette
parfumerie. Ça doit vous parler, ça, Lionel Palès, vous qui êtes un fervent défenseur de ces fameuses molécules de synthèse.
Mais du coup, je trouve que ce qui est intéressant dans l'expérience du client qui découvre ça, c'est que on peut pas se raccrocher à un pamplemousse, une rose, une odeur de bois.
C'est exactement ça.
Finalement, on est dans quelque chose de presque
abstrait. C'est presque des nouveaux champs olfactif.
Oui.
Alors, on va y revenir dans un instant. On fait une petite pause, le temps de... Voilà, d'emmagasiner toutes ces fragrances.
Parce que j'ai la tête qui tourne, je ne sais pas si j'ai pu finir l'émission.
On se retrouve juste après pour vous dire ça tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Goodelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Quand la parfumerie se fait plus rock, plus punk, voire plus gothique, nous lui consacrons nos Good Luxe. Nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Cloutier, dirigeant de la boutique Nose, qui est venu nous présenter une hume de Michael Partouche, fondateur de Room 1015, de Nicolas Chabot pour Ether Parfum, et de notre chroniqueur Lionel Paillès. Alors comme ça, Nicolas Chabot, on a vu juste avant la pause, vous nous offrez un petit shoot d'éther.
Exactement.
Carrément. Mais c'est comme ça que vous vendez votre parfum.
Exactement, oui, c'est vraiment l'idée sur Etheroxide, puisqu'on parle de ce parfum-là, on a décliné l'éther dans sa dimension justement de la médecine. Et l'éther, à l'origine, c'était un anesthésiant qui s'est transformé au fur et à mesure en une drogue. Et l'idée était de retrouver ce shoot et de se retrouver ce parfum addictif. Donc le shoot d'éther, on a l'acétate d'éthyle qui donne justement
ce shoot. Mais pardonnez-moi, c'est presque agressif l'éther, voire dangereux.
C'est l'idée au démarrage, c'est La surprise avec l'acétate d'éthyle qui donne ce petit shoot d'éther. Mais surtout, l'idée, c'est de rendre le parfum addictif. Et comment on a rendu le parfum addictif? C'est grâce à deux sublimes molécules qui sont l'ambroxan et l'isosuper, qui aujourd'hui permettent, qui sont utilisées dans énormément de parfums sélectifs et qui permettent de créer cet effet addictif, cet effet seconde peau.
Et c'est un peu comme ce qu'ils mettent dans le tabac pour...
Quand on rentre dans l'univers, ce que disait Lionel lorsqu'il a placé le sujet et le débat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez beaucoup de discours et vous le revendiquez, il faut installer la singularité, l'histoire de chacun des parfums. Lorsque vous parlez de ce parfum, comme vous venez de le faire, à un public, il rentre dedans ou il est plutôt inquiet? Ils disent, ce sont des malades, ils sont fous, ils me parlent d'éther, ils racontent ça, ou justement, ça rend les gens addictifs, du moins, ça ouvre la curiosité.
On a la chance de travailler dans un très beau milieu, qui est la parfumerie de niche, même si on dit plutôt la parfumerie rare ou la parfumerie d'exception, où on a un public averti qui entre et qui n'a peur de rien et qui est déjà conquis et qui a envie de rêver de voyager. Donc ça nous permet un discours beaucoup plus facile, puisque évidemment, nous, c'est à l'intérieur des flacons que le voyage se fait.
C'est assez étonnant là. Parce que c'est étonnant le parfum dont vous venez de parler à l'éther. Parce qu'effectivement, le premier réflexe, on renvoie pas au code habituel du parfum, la rose, le jasmin, mais là, on est presque, vous savez, quand on allait dans les laboratoires d'analyse médicaux faire la prise de sang, il y a que ça tout de même. Alors, bien sûr, dit comme ça, ça peut impressionner les gens. Il n'empêche que l'addiction vient vite. Et quand je dis ça, c'est vraiment subliminal, parce que derrière, c'est un parfum qui reste très construit. Mais le premier réflexe, c'est de se dire, et c'est gonflé, parce que dans le même temps, quand on avait tous nos tocs, j'allais dire, olfactifs. Certains, c'est l'essence, certains, c'est le cordonnier, d'autres, ça va être...
L'école,
ouais. Il y a de ça, quand même.
J'en ai plusieurs, des diététiques, la preuve, ils se retrouvent dans plusieurs parfums.
Il y a de ça, quand même.
Oui, tout à fait. L'idée, et on rencontre souvent lorsqu'on parle de colle, par exemple, bien sûr, la colle Cléopâtre, c'est un grand classique. Vous rencontrez une cliente, tout de suite, l'addiction, et ça, c'est le benzoate de méthyle, par exemple, qui donne ce petit côté, ou la coumarine, qui donne cette espèce de date, enfin, amendée, qu'on retrouve.
Et alors là, en plus, on peut en parler sans dire à consommer avec modération, sans être inquiété par le CSA, consommer des terres.
On ne quitte pas le labo, et alors là, on s'adresse à monsieur le docteur en pharmacie, pour Room 1015, Michael Partouche, vous êtes docteur en pharmacie.
Voilà,
comment vous avez basculé à un moment donné dans l'idée, je peux rendre ça peut-être un peu sexy, toujours rock, mais un peu sexy, et j'en fais une ligne de parfum?
En fait, je suis donc docteur en pharmacie, mais je suis aussi musicien. Et pendant longtemps, j'ai essayé de chercher le juste milieu entre ces deux mondes qui sont vraiment opposés. Et en fait, c'est une histoire qui est un peu longue. Je travaillais en pharmacie, mais j'ai tout plaqué pour aller vivre à Londres avec mon groupe. Et pendant plusieurs années, pendant 5 ans, j'ai fait que ça. Le groupe s'est terminé, je suis revenu sur Paris, j'ai retravaillé en pharmacie, mais c'était l'ennui. Et donc, j'ai vraiment voulu mélanger ces deux, l'aspect chimique, enfin, la chimie, et l'aspect vraiment créatif.
C'est le parfum qui réunit.
Pile au milieu, voilà, c'est ce qui réunissait vraiment ces deux mondes-là, c'était les fragrances.
Et là aussi, tout se passe dans le jeu, parce que une certaine sobriété du flacon, même si on retrouve quand même, dites-nous un mot sur le bouchon, le capuchon, là, tel qu'il est faceté. C'est étonnant, ça.
En fait, toute l'histoire, c'est plusieurs facettes de ma personnalité aussi. J'ai l'impression d'être un petit peu schizophrène. Ça m'est arrivé de faire des concerts, de passer une soirée vraiment incroyable, et le lendemain d'être à la pharmacie avec donc il y a ce côté à la fois
Docteur Jekyll et Hyde.
Exactement. Et donc c'était l'idée du bouchon, c'était d'avoir quelque chose à plusieurs facettes, un petit peu comme une sorte de schizophrénie.
Mais tout est étudié, vous aviez raison, il laisse rien au hasard.
Et donc forcément, quand on crée un parfum avec ce que vous venez de nous raconter, le premier c'est Electric Wood,
oui.
C'est ça, en référence à votre première guitare.
Voilà, donc j'ai sorti une première collection l'an dernier qui était 3 parfums. Qui est vraiment une collection personnelle avec donc Electric Wood, qui est inspiré par l'odeur de ma première guitare, que mon père m'avait acheté ma première guitare, c'était une Gibson. Et quand j'avais 11 ans, quand j'ai ouvert la caisse, c'était magique. C'était la première fois que je chantais vraiment cette odeur-là. C'est une odeur qui m'a suivi depuis, parce que je suis toujours musicien.
Donc l'odeur de la guitare, c'est une odeur
c'est une odeur boisée et très poussiéreuse, parce que c'est la poussière de la housse de guitare. Donc
d'accord.
Vraiment, on est dans dans l'histoire.
C'est l'odeur du vernis, du métal des cordes, du bois. C'est tout ça qui c'est une odeur qui est que je porte aujourd'hui d'ailleurs.
Et alors comment, entre ce souvenir, cette mémoire, cette guitare, c'est vrai, comment on arrive tout de même à retrouver les matières, je ne sais pas si c'est des molécules de synthèse ou des comment on va réussir à la transcrire? Parce que ça reste très mystérieux, très subliminal encore.
Là, on a utilisé le bois de chêne et le bois de cèdre, et pour le côté poussière, on a utilisé l'iris. Qui donne ce côté un peu poudré. Voilà, on a donné un côté un peu vintage aussi. Ça donne ce côté un peu vintage. Les meilleures guitares sont les guitares vintage. Donc, du coup, on a voulu donner vraiment ce côté un peu poussière.
Alors,
on dirait un petit peu des noms de chansons après.
Alors, Power Ballad, c'est le nouveau qui vient de sortir là, début février. L'inspiration, c'est les années 90, les années lycée, telles que je les ai connues. Et l'idée de ce parfum, c'était vraiment de recréer la sensation, l'odeur d'un premier baiser. Sur fond de Power Ballad, on écoutait tous, quand j'étais au lycée, on écoutait tous Guns N' Roses ou Scorpion, les choses comme ça.
Les Power Ballad, c'était les slow, en fait, c'était les morceaux lents. Des groupes de hard rock en fait, donc sur chaque album il y avait toujours
Scorpion,
un slow
qui avait un peu lancé l'affaire. C'était Number One. C'est net ça, Number One. On devrait la passer là, on en a pour 10 minutes.
Mais d'ailleurs, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, vos parfums, mais même pour vous autres, parce qu'on a l'impression qu'il manque la musique, on a l'impression que vos parfums ils pourraient être accompagnés d'un son.
Bah justement, chaque parfum vient avec une chanson qui a été créée pour chaque parfum, ce qui permet donc j'avais créé à la base un discovery kit, c'est pour les gens qui achètent des échantillons sur internet. Ils reçoivent un disque vinyle avec les chansons de chaque parfum, qui décrivent chaque parfum. J'ai collaboré avec un artiste anglais qui était dans mon groupe avant, quand j'y vais à Londres, qui s'appelle Pat Dam Smith. Et il a écrit, donc j'ai écrit les textes et lui a écrit les musiques. Et pour chaque parfum, donc on a une musique qui décrit. Ça permet d'avoir à la fois de découvrir le parfum olfactivement, mais aussi en l'écoutant.
Donc, alors vraiment, vous, ce serait le rock pop.
Ouais, c'est ça.
Là, ce serait du rock prod, ce serait Kraftwerk là. Ouais, on est chez Kraftwerk,
clairement. Ouais.
Philippe Glass. Et là, c'est l'harmonium, c'est l'orgue, c'est le. C'est la liturgie, la musique liturgique.
D'ailleurs, Filippo, le créateur est organiste.
D'accord.
C'est vraiment le fil rouge.
Ça,
la musique est très très présente.
Mais c'est ça. Vous n'avez pas encore ces deux marques chez vous, chez nos Nicolas Cloutier, mais est-ce que vous avez vu justement cette effervescence et ces musiciens, parfumeurs, pharmaciens, en tout cas qui bousculent la parfumerie, justement, arriver chez nous ces derniers temps. Est-ce que vous sentez justement ce que disait Lionel Paillès tout à l'heure, que ça pousse, bien sûr, vous êtes fidèle aux premières marques de niche que vous avez accueillies, vous étiez parmi les premiers.
Très belles marques.
Mais est-ce que vous sentez que qu'il se passe quelque chose de nouveau encore?
Oui, je pense que les nouvelles marques qui vont... Parce qu'il y a beaucoup de marques, il y a à peu près 10-15 marques par mois qui nous sollicitent pour être référencées, mais dans l'ensemble de notre univers. Et je pense que juste écrire une histoire ou juste travailler sur un packaging XYZ, c'est plus suffisant. Il faut beaucoup plus de profondeur, il faut mettre ses tripes dans le truc. Et il faut qu'on voit que ça vient de loin qu'il y a eu beaucoup de passion. Et c'est ces marques-là qui arrivent avec cette passion, qui arrivent à la transmettre, qui nous attire, en fait.
Vous comprenez, j'imagine, Noël, parce que c'est vrai que maintenant, c'est un peu une habitude, une deux fois par an, on fait une grande émission autour de cette énergie de la parfumerie. Mais on voit qu'il y a effectivement, même le monde de la niche ne veut plus dire grand-chose, c'est 15, 20 marques. Qu'est-ce qui va faire la différence? Certes, l'histoire, certes, j'imagine tout de même la fragrance, ce que vous dites en plus, la passion, peut-être le temps qu'on a mis à construire sa marque. Oui. Qu'est-ce qui fera la différence pour que finalement, il y ait quand même cette singularité, trouve un public? Autrement, on sera un peu comme les yéyés, c'est-à-dire chacun sortira son album et puis à la fin, il n'en restera plus grand-chose.
Il y a un élément de réponse dont on n'a pas parlé, qui sont les parfumeurs en fait, qui créent ces parfums. Et je crois que ça, c'est un élément de réponse pour vous. C'est de dire que pendant très longtemps, dans les marques classiques de la niche, on avait des parfumeurs qui travaillaient pour le sélectif et qui se sont mis à faire, on connaît, il y a des grandes marques comme l'Artisan Parfumeur, où les parfumeurs faisaient composer pour tout le monde. Là, il y a une nouvelle génération de parfumeurs, des gens, étrangement, c'est un hasard total, mais les gens qui ont travaillé avec Mickaël et avec Nicolas sur les deux marques sont un duo de parfumeurs qui s'appelle Flair. C'est deux jeunes femmes
Ah oui, parce que j'allais dire, où sont les femmes? Donc elles sont là.
Derrière, cachées, flanquées.
Elles sont, ouais, bah, c'est ça.
Et en fait, c'est des filles qui osent des choses qu'on leur aurait probablement refusées, soit dans le sélectif de chez les parfums qu'on trouve chez Sephora, Marionneau, soit peut-être même dans des marques de niche plus installées. Donc là, c'est un peu, on va laisser libre cours à notre créativité et on y va et on verra bien.
Parfait. Et ben on va voir ce qu'on va voir. Et juste, il faut conclure. Donc, on rappelle l'adresse de chez vous, Nicolas Cloutier, chez Nose.
C'est le 20 rue Bachemont dans le deuxième, ou nose.fr. On a un site web aussi.
La rue Bachemont, qui est la rue qui monte à Paris. Je peux vous le dire.
Room 1015, on vous trouve où?
Chez Liquide, dans le Marais. Et puis, ben, sur...
sur le site internet, ouais, internet, avec la musique qui va avec.
Et sur scène, on vous retrouve où et quand?
Et ben, le 25 février, je joue avec mon nouveau groupe.
Ça
je joue à la mécanique ondulatoire.
Ah oui, très bien.
Eh ben, voilà, Mickaël Partouche. Et pour finir, Nicolas Chabot, Hétor Parfum.
Chez l'éclaireur, à partir d'avril, et après, au printemps Haussmann. Donc,
je joue. Ben voilà, vous arrivez tous
en mes sûrement. Ah, bravo, Lionel. Vous avez encore marqué des points.
Merci beaucoup à tous les quatre, Lionel Payès, Nicolas Chabot, Mickaël Partouche et Nicolas Cloutier. Allez, restez avec nous. Good Luck continue dans un instant. On fait d'abord une petite pause.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luck Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et avec Good Luck, restez branchés dans un instant, les nouveautés high-tech. Mais d'abord, le livre de la semaine. Et le livre de la semaine, il pourrait correspondre à tout le monde, à tous nos amis du luxe. Ça s'appelle tout simplement, c'est un tout petit ouvrage, Les 100 hameaux de la créativité à l'usage de tous. Alors, c'est un collectif, c'est la petite collection 100 hameaux d'Archibooks. Quand je dis c'est un collectif, ils sont vraiment nombreux à l'avoir fait, aussi bien des gens qui travaillent dans la communication que des créateurs comme Agnès B, Nicolas De Staël, Élie Top, Nelly Saunier, donc qui est plutôt artisan, Inès de la Fressan. Alors ça va de 5 sens, ou alors A comme absolument, jusqu'à vision. Et entre les deux, vous avez quelques petites phrases comme ça qui vous invitent à réfléchir un peu sur la créativité. Mathilde Bretillot, par exemple, ça vous parle, hein, c'est comment, designer culinaire. Brise légère ou ouragan, la créativité est notre énergie la plus précieuse. Ou alors celle-ci, je préfère encore, c'est Yu Sugimoto. Équilibre, la créativité se trouve dans l'équilibre de la tradition et de l'innovation. Voilà, il y en a plein comme ça, il y en a 101. C'est juste le tout petit livre, comme ça, quand on est en mal d'inspiration et qui permet de partager un petit peu des choses. Allez, on reste connectés, c'est la chronique high-tech.
BFM Business, Good Luck Paris, l'édition du week-end.
Christopher Siminelli, bonjour.
Bonjour Karine.
201net. Alors vous avez fait un petit peu votre marché du côté du high-tech, c'est quand même
c'est
votre spécialité. La dernière fois vous étiez venu nous parler de Las Vegas, mais il ne se passe pas des choses qu'à Las Vegas et régulièrement il sort des petites choses, même dans nos salles de bain.
Oui, exactement. Je suis tombé là-dessus. C'est un miroir connecté, figurez-vous, pour la salle de bain. Alors là, on n'est pas du tout dans l'objet high-tech ostentatoire. C'est hyper bien intégré. C'est un peu aussi pour ça qu'on aime cette création. On le doit au designer ingénieur Max Braun, qui a tout simplement transposé sur son miroir de sa salle de bain les infos du service Google Now, qui est disponible sur iPhone et sur Android. En gros, en quoi ça consiste? Le matin, vous vous réveillez, vous vous mettez devant votre miroir et vous avez la météo du jour, vous avez vos prochains rendez-vous de la journée, et puis voilà, les news importantes. Donc tout ça hyper bien intégré dans le miroir de la salle de bain.
Je ne sais pas quoi en penser parce qu'on a à peine les yeux ouverts que déjà on faut se mettre dans le mood de la journée.
Oui, alors Karine, avouez-le.
Premier réflexe de Karine, voilà, c'est quand elle se lève tout de suite, c'est se regarder dans le miroir.
On est beaucoup, je pense, à apporter notre salle de bain, notre téléphone dans la salle de bain pour y voir les premiers mails ou ce qui s'est passé dans la nuit. Donc là, on n'aura plus à le faire. On n'en prendra même plus le risque de faire tomber son téléphone dans l'évier. Tout
c'est juste à l'instant de se raser pour pas qu'il y ait une mauvaise breaking news, quoi. Ah mince! C'est une phrase plus, de toute façon, on n'a plus de problème.
Voilà. Et le luxe, justement, de cette solution, c'est qu'on peut le faire soi-même. Donc, l'ingénieur, Max Braun, l'explique lui-même. Voilà comment vous pouvez le faire avec des composants qu'on trouve sur Internet.
C'est un do-it-yourself.
Vous pouvez même le faire avec votre propre miroir, avec un miroir existant. Et c'est ça qui
On va bidouiller ça.
C'est dingue.
Voilà une idée pour le week-end.
Bien sûr. Alors, et les baskets connectées, on peut les faire soi-même aussi?
Oui, alors, on n'attendait pas forcément Samsung sur ce créneau. On le connaît pour ses téléphones, hein, son même même l'électroménager, mais Samsung va se mettre à faire des baskets qui vont s'appeler les Lofit. Voilà. Samsung va annoncer ça au Mobile World Congress de Barcelone, où je vais me rendre d'ailleurs dès ce dimanche.
Donc mais en exclusivité aujourd'hui,
voilà. Donc Samsung a annoncé qu'ils vont présenter ces baskets qui pourront faire des choses assez classiques. Donc
compter le nombre de pas,
etc. Donc la distance, mais pas que. Les baskets pourront localiser le centre de gravité de la personne qui les porte, pourront mesurer aussi la pression exercée par chaque pied sur le sol ou la répartition des masses. Alors le but, c'est vous faites de l'exercice, par exemple de la musculation. Voilà, l'application qui est associée à ces baskets pourra vous indiquer si vous faites le bon geste,
elle vous
si
corrige.
Vous risquez la blessure ou voilà.
C'est une appli coaching.
C'est des baskets coach en fait.
Des baskets coach, voilà.
Mais la basket en elle-même, ils vont pas s'associer avec un grand équipementier type.
Alors pas du tout. Alors ils font ça avec une start-up qui est issue de leur labo de R&D, pardon. Ils ont voilà un système d'incubateur de start-up. C'est l'un des projets qui sort des labos de Samsung. On a déjà des prix. Alors $149 pour la version fitness, finalement. C'est pas très cher, hein, quand on voit le prix d'une basket hyper tendance aujourd'hui, et $200 pour une version qui serait cette fois-ci dédiée au golf.
Faut voir Samsung,
voilà,
Lofit, faut voir comment on est dedans.
Mettra enfant au sport.
Parce que quand même la première chose, c'est d'être aussi bien dans ses baskets.
Exactement.
Elle était facile. Allez, un casque, je sais pas combien il en sort par an des casques.
Énormément.
Autant que le livre de cuisine, je pense.
Oui, c'est vrai. Alors, on dit que le silence est d'or, mais alors la musique est plutôt faite de cristaux pour Master & Dynamic, qui est une marque de casque très haut de gamme américaine, qui s'est associée avec Caroline Rowan, qui est une designeuse d'accessoires de luxe, de mode. Donc, quand une marque de casque et une designeuse d'accessoires s'associent,
ça fait
un casque très Swarovski.
Ouais.
Donc, on a plus de 200, on le voit à l'écran, on a plus de 200 cristaux Swarovski sur ce casque. Clairement, on ne va pas passer inaperçu.
Faut que
le son soit bon, mais c'est une marque quand même qui fait de l'équipement de très bonne qualité. On a déjà le prix, 1000 euros. Par contre, on ne sait pas encore le poids, hein, bizarrement.
Non, c'est le casque culturel.
La marque n'a pas du tout communiqué là-dessus, mais on imagine qu'il sera assez lourd à porter.
Magnifique. Et puis, un petit mot rapide sur l'Apple Watch d'Hermès.
Oui, tout à fait. Alors, vous connaissez bien sûr Hermès. Hermès a participé activement au développement de l'Apple Watch, notamment quand Apple l'a présenté. Apple a présenté très rapidement un bracelet designé par Hermès, qui a eu apparemment beaucoup de succès. Parce
qu'on n'attendait pas la rencontre entre les deux.
Non, on n'attendait pas entre les deux, mais apparemment ça a eu beaucoup de succès parce qu'ils remettent ça. Le 15 mars, Apple tient une grande conférence pour annoncer de nouveaux iPads, un nouvel iPhone et aussi de nouveaux bracelets pour son Apple Watch. Et il paraît que Hermès serait de la partie avec des nouveaux modèles.
Alors pour ceux
qui sont collectionneurs et qui sont très attachés à Hermès, on les comprend, voilà, il y aura des nouveautés pour eux.
Et bien c'est pour ça que vous êtes ici et que vous venez nous voir régulièrement, Christopher Siminelli, c'est l'alliance du high-tech et
voilà,
du luxe. Merci infiniment à vous. Bien sûr, on vous retrouve sur 01 Net régulièrement, beaucoup plus régulièrement que chez nous. Et donc, bon voyage à Barcelone alors.
Merci, on va essayer.
Allez, merci, l'agenda.
Goodlux Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Et alors justement, Emmanuel, puisqu'on parle d'Hermès...
Alors là, très rapidement, parce qu'on va croire qu'on est hermésophile, on n'est pas loin, mais
on
quand même...
On a fait exprès.
Non, très rapidement, parce que dans un mois, un week-end pour week-end, jour pour jour, va commencer le fameux saut Hermès sous la verrière du Grand Palais. C'est devenu vraiment, d'abord, un vrai concours hippique parmi les mieux cotés du circuit. Et puis c'est vrai que c'est un lieu qui, par delà les grands chevaux, les grands cavaliers, développe tout autour, pendant ces deux jours, d'événements, de manifestations, d'animations, une cavalcade dédiée à Hermès. C'est plutôt réussi, je vous l'annonce, parce que pour avoir des places, chaque année, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est maintenant qu'il faut y aller, www.hermes.com. Et là, vous réservez vos places, plutôt bien ou moins bien placées. Mais bon, il faut y aller. C'est vraiment un beau moment. Et puis, on redécouvre ce qui était à l'origine ce grand palais, c'est-à-dire que un lieu qui accueillait des...
Il y avait bien sûr à chaque fois un spectacle équestre. Donc, c'est vraiment un moment assez magnifique.
On parlera plus d'Hermès pendant au moins...
Une semaine. Non, on parle de plein d'autres choses dans le luxe. Et notamment de musées consacrés à Yves Saint-Laurent. Il y en aura deux qui ouvriront leurs portes. Vous avez un peu de temps. Ce sera à l'automne 2017. L'un à Paris et l'autre à Marrakech. Donc je commence par celui de Paris. Vous le savez, il y a la fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent qui rassemble 40 années de création du couturier. Elle va fermer pour travaux et donc elle va rouvrir après pour un musée. Vous voulez rajouter quelque chose, Madame ?
Oui, un musée. Surtout, ils vont recréer les intérieurs Yves Saint Laurent, notamment de son fameux studio. Aujourd'hui, on peut visiter son studio de création. C'est vraiment, vraiment sur mesure. Il faut montrer patte blanche, écrire une lettre. Mais là, ça sera ouvert au public. On verra véritablement le lieu où Saint Laurent créait ses modèles.
Voilà, 5 avenue Marceau. Donc ça, ce sera pour Paris. Paris. Voilà, on prend le meilleur de la fondation, de toutes les collections. On met tout ça 5 avenue Marceau. Et puis il y a Marrakech, parce que Marrakech, vous savez, c'est sa deuxième patrie d'adoption. Donc ce sera à proximité du fameux jardin Majorelle, qu'il a sauvé d'une disparition certaine. Avec Pierre Berger, quand même, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et donc, on aura, on trouvera un musée aussi, avec un auditorium, une bibliothèque de recherche, un café, restaurant. Et ce sera le cabinet d'architectes français Studio qui va se charger de la réalisation de ce deuxième musée qu'on aura à Marrakech, donc en 2017, autour d'Yves Saint Laurent. Allez, la valse des casseroles.
Très rapidement, la valse des casseroles. Donc, côté grand chef, ils fourmillent tous de projets. Inattendu, Thierry Marx, qu'on ne présente plus, installé à Paris au restaurant Mandarin Oriental, des Mandarin Oriental. Il ouvre un restaurant cette fois-ci dans la gare du Nord. Ah, vous savez, c'est Éric Fréchon du Bristol qui avait déjà ouvert un restaurant Gare Saint-Lazare. Ça participe aussi quand même de ce renouveau des gares qui se sont refait des beautés. Et donc Thierry Marx, Gare du Nord, d'ici peu de temps, hein, dès le printemps, ça devrait être ouvert. Ça, un projet d'animation de la Gare du Nord, et c'est la première pierre, le premier événement. Et Jean-François Piège, qui a bien sûr ouvert son grand restaurant à l'automne dernier, et qui avait ouvert il y a à peu près un an son Clover, son petit bistrot, petit bouclard très chic du côté du 6e. Là, il en ouvre un nouveau, ça s'appellera Clover Grill. Je pense qu'on sera encore dans l'énergie des steakhouse. On n'en sait pas plus, mais on connaît l'adresse. C'est rue Bailleul, et ça devrait ouvrir aussi côté du printemps. Et c'est pas fini, mais ça sera pour la semaine prochaine.
On fait monter le suspense. Et justement, puisqu'on parle gastronomie, un rendez-vous à noter sur vos tablettes. Là aussi, je pense qu'il va falloir réserver le 9 mars. C'est le chef Bruno Doucet qui organise un dîner à 6 mains avec, devinez qui ?
Je sais pas.
Bah, ses amis. Qui est l'ami de Bruno Doucet ? Bien sûr, Yves Candebord de la Régalade, bien sûr. Et Cyril Lignac, plus inattendu. Et voilà. Donc là, c'est carrément.
Souvent, il y a des dîners du Sud-Ouest. Ouais. Hein, ouais.
Souvent, il y a des dîners à 4 mains. Là, c'est carrément un dîner à 6 mains autour de la truffe, parce que la saison est bientôt terminée. Donc, un menu autour de 85 euros.
Ça aura lieu où ?
Non comprise. Ah, ça a lieu chez Bruno Doucet.
À la Régalade, alors.
Voilà, à la Régalade. Et donc, je vous donne le numéro pour réserver, parce que c'est le 9 mars, 01 42 21 92 40, s'il n'est pas encore trop tard.
Si c'est pas déjà complet.
Mais non, vous appelez non, de la part appeler. De Good Luxe, vous aurez toujours une
petite... Ah non, pas eux, ouais.
Bon, merci beaucoup, Emmanuel, on se retrouve la semaine prochaine, vous nous annoncez plein de choses, alors.
Ah, il y en a encore, oui.
Ouais, plein de choses. Merci à vous. Allez, Good Luxe continue, c'est le best-of dans un instant.